Bonsoir. 50 de pouvoir de 5 ans au pouvoir de Joseph Kabila, mort de 8 casques bleus guatémaltèques dans une attaque au Cap, au parc Garamba dans la province orientale. Combat au Nord Kivu entre l'armée régulière et les soldats insurgés. Dialogue entre Congolais revient avec le journaliste avec des analyses sur ce point d'actualité de la RDC qui ont marqué la semaine. Ce vendredi, autour de notre table de discussion, Bentet Kakonde, journaliste au potentiel, un quotidien qui apparaît à Kinshasa, Claude Kamanga Mutonde, directeur de l'agence de presse Congo Actualité, et Don Piero Ntoukani, journaliste indépendant qui interviendra depuis Matadi au Bas-Congo. Jeudi 26 janvier 2006, hier, Joseph Kabila a totalisé 5 ans depuis qu'il est à la tête du pays. Quel bilan faire de son action sur le plan politique, sécuritaire et économique? Je vous propose d'abord Claude Kanza dans cette analyse qui porte sur l'aspect politique et sécuritaire de son action.
Sous le plan sécuritaire, Joseph Kabila a contribué grandement à la mise en œuvre effective de l'accord de Lusaka signé par le gouvernement de son père. En juin 2001, le cessez-le-feu devient effectif. Toutes les factions en guerre se sont désengagées des 15 km des lignes de front comme l'exigeait l'accord de Lusaka. En plus du cessez-le-feu, la paix en RDC reposait sur deux choses, le retrait des troupes étrangères et le dialogue inter-congolais. Joseph Kabila va ainsi signer des accords pour le retrait de ses troupes étrangères avec le Rwanda le 30 juillet 2002 à Pretoria en Afrique du Sud et avec l'Ouganda le 6 septembre de la même année à Luanda en Angola. Le retrait officiel des troupes étrangères crée des conditions propices au bon déroulement du dialogue national. Le 17 décembre 2002, l'accord global inclusif, fondement de la constitution de la transition, est signé. Ces différents accords signés par Joseph Kabila étaient des conditions nécessaires pour le cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités. Mais la paix et la sécurité nationale dépendaient du respect des engagements pris. À ces envahisseurs, Joseph Kabila avait promis de rapatrier tous les groupes étrangers qui menacent leur sécurité. Presque 4 ans après la signature de l'accord de Pretoria avec le Rwanda et de l'accord de Luanda avec l'Ouganda, les FDLR, rebelles rwandais et les LRA, rebelles ougandais, sont encore présents dans les territoires nationaux. Sous le plan national, en signant l'accord global inclusif, le rebelle congolais avait accepté de reconnaître l'autorité de Joseph Kabila. Mais en retour, le chef de la composante ex-gouvernement acceptait de partager son pouvoir à tous les niveaux avec ses rebelles. 4 ans après la signature de l'accord global inclusif, les services de sécurité et les régies financières connaissent encore une grande influence du PPRD, le parti présidentiel. Au problème du respect des engagements pris, s'ajoute celui de la sécurité des personnes et de leurs biens dans le pays. Au nord et au sud Kivu, les miliciens hutu-rwandais des FDLR continuent à massacrer les populations congolaises. Dans les districts de l'Ituri, dans la province orientale, des groupes armés congolais continuent à s'aimer l'insécurité, tandis qu'au nord Katanga, la rébellion de Gédéon n'est toujours pas anéantie par les FARDC. À Kinshasa aussi, l'insécurité qui persiste se manifeste par différents assassinats commis par des hommes en armes.
Tribune de la presse, je vous le disais, nous recevons dans ce studio de Radio Okapi Bentet Kakonde, Claude Kamanga Mutonde et au téléphone Don Piero Ntoukani, tous deux journalistes qui analysent ce premier point d'actualité, 5 ans de bilan de Joseph Kabila, son action politique et militaire, vous venez là et sécuritaire, vous venez là d'entendre ce point d'explication de notre confrère Claude Kanza. Commençons par Don Piero Ntoukani, vous êtes journaliste indépendant, vous intervenez depuis Bas-Congo à Matadi. Précisément, vous venez d'entendre ce point d'analyse. Qu'est-ce que vous dites de façon concrète sur l'aspect politique et sécuritaire de l'action de Joseph Kabila?
Bon, merci pour la parole. Là, je dois d'abord revenir à l'intervention du président de la République, le discours qu'il avait prononcé à la nation lors de son investiture. C'est un discours programme qui a donné l'espoir à tout un peuple meurtri. Parce que nous devons, je crois, commencer par faire la part des choses. Donc, commencer par le commencement, voir dans le contexte le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. C'était au moment où le pays était presque balkanisé. Il y avait un gouvernement à Guadeloupe, il y avait un gouvernement à Goma, donc le pays était presque divisé. Et dans son discours, le tout premier que je suivis, en tout cas pour moi, je me disais, ce pays qui a été dirigé pendant longtemps par un type qui a tellement marqué les choses ici, qu'est-ce que le président Joseph Kabila, avec son âge, peut faire? Mais en tout cas, il a démenti tout le pronostic en donnant raison à cet adage français qui dit « aux hommes d'aimer, la victime attend pour les hommes des années ». Parce que dans ce discours, le président a pris certains engagements qu'il a respectés tout à l'heure, là, dans ce que nous venons d'entendre. On nous a fait, en quelque sorte, le rétro de toutes les grandes actions qu'il avait menées. Le problème de cesser le feu de Lusaka signé par le feu président son père, il a concrétisé cela, il est allé très loin jusqu'à ouvrir en quelque sorte son pouvoir aux autres, aux rebelles. Mais... Donc comme il avait dit dans son discours, qu'il va aller partout où il sera question de trouver la paix au pays, il l'a fait.
Don Pierrot, vous venez d'entendre ce point d'analyse. C'est vrai qu'il a pris des engagements, il a signé des accords avec les étrangers, les pays étrangers, il a signé des accords avec des Congolais. Mais ces accords, en réalité, n'étaient que des promesses aux étrangers qu'il va rapatrier de force les rebelles, leurs rebelles qui se trouvent dans le territoire national, des promesses aux Congolais qu'il va partager le pouvoir à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, pratiquement, si on fait le bilan, c'est pas encore totalement réalisé.
C'est tout à fait normal parce que tout ne dépend pas du Congo. En tout cas, pour répartir les forces du mal dans notre pays, le Congo peut faire ce qu'il veut. Tout à l'heure, là, c'était un des sujets que vous avez retenu, c'est ce qui s'est passé dernièrement à Rutshuru. Donc, il faudrait que la communauté internationale qui nous aide beaucoup, là je dois dire un grand chapeau à la MONUC, doit continuer à nous aider pour faire partir tous ceux qui ne sont
pas chez nous. C'est pas la MONUC de chasser, la MONUC n'a pas le mandat de rapatrier des forces, des rebelles FDLR et des LRA qui sont ici, le mandat revient au peuple congolais en vertu de l'accord de Lusaka, en vertu de différents accords signés par le président de la République. C'était aux Congolais de prendre toute la responsabilité et à la MONUC de soutenir l'effort congolais. Mais on voit une déficience justement des efforts congolais par rapport au rapatriement.
Oui, là le problème c'est que nous n'avons pas encore une armée qui peut faire ce travail-là. On est en train de restituer cette armée, et là je disais que la MONUC nous soutient, mais il faudra peut-être que la communauté internationale continue à nous soutenir, parce qu'avec cette armée qui est en train de renaître en quelque sorte, et nous n'avons pas encore cette force de frappe qui peut nous permettre de bouter tout ce monde là dehors. Donc ces gens-là sont aussi armés, sont aussi surarmés par les autres pays qui ne veulent pas du bien. Bien sûr que le président a la bonne volonté, mais comme vous venez de le dire, bien sûr, il y a certaines choses qui ne dépendent pas tellement de sa bonne volonté.
Mais est-ce qu'on ne voit pas là qu'on se retrouve dans une situation où, en réalité, les choses ne se font que si c'est aidé par la communauté internationale, dans les cas d'espèce?
Oui, mais je veux dire, si la communauté internationale ne nous aidait pas, en tout cas, moi, je vois très mal comment est-ce que nous allons nous en sortir. D'autant plus que nous reconnaissons tous que notre armée n'est pas encore suffisamment restructurée, jusqu'à ce que nous ayons cette armée-là. Comme l'État, ça faudra que nous ayons tout le grade à reprendre. Donc, en tout cas, ça, je suis d'accord avec vous que c'est le côté où ça continue à poser des problèmes. Donc, nous n'avons pas encore une armée suffisamment forte pour bouter tout le monde dehors. Parce que si nous avons une armée forte, une armée très puissante, nous allons faire notre travail allègrement sans problème.
On va revenir à vous tout à l'heure, Don Pierrot Toukani. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et vous intervenez depuis Matadi au Bas-Congo. Retrouvons maintenant Benkiat Kakombe. Vous êtes journaliste potentiel en quotidien qui apparaît ici à Kinshasa. Vous venez d'entendre ce point d'analyse de notre confrère Claude Kianza sur le 50 pouvoir de Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous dites?
Je crois que le condensé présenté par Claude Kianza est tout à fait clair. Et ce que je voudrais ajouter de mon point de vue, c'est que Kabila, s'il faut le juger, après les 5 ans de pouvoir, c'est qu'il a été différent de son père. Il a été plus positif que Kabila père. Je veux bien expliquer cette idée. C'est qu'il a montré sa souplesse à accompagner la communauté internationale qui a la maîtrise des hommes qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est que le père n'avait pas perçu, oubliant que Il est arrivé à Kinshasa en mai 67 parce que la communauté internationale avait décidé de chasser Mobutu et de l'installer. Mais pour le reste du programme qui avait été convenu de mettre en exécution avec la collaboration de la communauté internationale, le père s'était montré comme un ange rebelle. Et voilà pourquoi, de ce point de vue, Kabila fils est tout à fait différent de son père, et c'est là qu'il est positif. Mais il est positif, ce n'est pas tout. J'entends des gens dire qu'il avait promis qu'il conduirait le peuple aux élections, qu'il réunifierait le pays. Mais on ne peut pas conduire le peuple aux élections ou pacifier le pays tout seul. On sait que le pays avait été occupé par d'autres Congolais avec l'appui des étrangers, du même que le gouvernement de Kinshasa, Kabila père et Kabila fils. Mais pour faire la paix, il fallait avoir des interlocuteurs. C'est ça, l'accord de Lusaka, l'accord de Sun City, c'est que les belligérants et les non-belligérants se sont retrouvés ensemble et tous ont promis au peuple qu'ils allaient pacifier le pays et que chacun s'arrangerait pour demander à ses partenaires, à ses alliés étrangers de rebrousser chemin. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui, si les troupes étrangères ne sont plus sur le territoire national, aux côtés du MLC, aux côtés du RCD, aux côtés d'autres entités, c'est la volonté de tous ces acteurs, y compris l'acteur qui était au gouvernement à l'époque, l'acteur Kabila, qui s'est désengagé vis-à-vis des Namibiens, vis-à-vis des Zimbabwéens. Donc, faire la paix, cette victoire-là, c'est une victoire commune. On ne peut pas dire aujourd'hui que Kabila seul revendique et que comme ça, au hasard, on dit « oui, c'est lui qui a pacifié le pays ». Non. Tous les ex-belligérants ont apporté un plus pour que le pays arrive à cette paix. Mais pour ce qui est de la suite, le vrai bilan de Kabila en 5 ans, il faut demander maintenant à ceux qui ne travaillent pas dans les institutions de la République. Il faut demander aux enseignants. Il faut demander aux fonctionnaires.
On va arriver avec son bilan économique et du point de vue social aussi, mais restons d'abord du point de vue sécuritaire, restons du point de vue politique. Il a signé des accords. Et ces accords-là sont montrés... Il a signé une grande partie des accords seul. Par exemple, avec l'Ouganda. C'était le 6 septembre 2002. Le MPS-4 n'était pas encore installé. L'accord avec le Rwanda, c'était en juillet 2002. Et on voit là, c'était dans son action propre, en tant que responsable de l'ex-gouvernement, qu'il a signé ces accords. Ça montre effectivement qu'il a eu une volonté de créer des conditions de sécurité et de paix.
Oui, mais on ne peut pas dire aujourd'hui, moi je ne peux pas dire, écrire dans l'histoire du pays que c'était une initiative de Kabila. C'était la communauté internationale qui était en train de nous encadrer, d'encadrer les rebelles aussi, pour faire pression sur le gouvernement, c'était la communauté internationale. Donc c'est le concours de tous ces gens qui a fait que ces accords-là partiels, bilatéraux, Kinshasa, Kampala, Kinshasa, Kigali, Kinshasa, Luanda, que ces accords-là interviennent, c'est la communauté internationale qui a pesé de son poids. Donc, ce n'est pas une initiative individuelle comme on pourrait le laisser croire. L'histoire, je crois, nous condamnerait, nous, analystes, d'avoir falsifié cet aspect.
Mais est-ce qu'on peut mettre aussi à son compte, vous l'avez d'ailleurs relevé, une volonté positive de faire avancer les choses?
Cette volonté
a été déterminante.
C'est indiscutable. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est différent du père qui voulait bien la guerre, mais le jeune, il a été plus sage.
Alors, on va passer à un autre point, c'est l'aspect économique. Je rappelle à nos invités que nous n'avons toujours pas dans notre studio Claude Kamangamutonde, directeur à l'agence de presse Congo Actualité, qui devrait être avec nous analyser ce point d'actualité. Prenons alors rapidement le deuxième. Le deuxième, c'est sur l'aspect économique et social de l'action de Joseph Kabila, à la tête du pays pendant 5 ans actuellement. Et une fois de plus, retrouvons notre confrère Claude Kienza.
Sur le plan économique, Joseph Kabila a signé en mai 2001 avec le Fonds monétaire international le programme intérimaire renforcé PIR. C'est la reprise de la coopération structurelle avec les institutions financières internationales rompues il y a 10 ans. En avril 2002, le programme intérimaire renforcé est remplacé par le programme économique du gouvernement PEG. Ce programme avec les institutions de Bretton Woods astreint la RDC aux règles de respect de l'équilibre macroéconomique. Ceci pour favoriser la croissance économique, réduire l'inflation et promouvoir la bonne gouvernance. En échange, le budget de la RDC est appuyé par le Fonds monétaire international. D'avril 2002 à septembre 2005, la croissance économique de la RDC a augmenté. L'année passée, elle a atteint 5,7% et les prévisions pour 2007 sont de 7%. L'hyperinflation est maîtrisée. L'inflation est maintenue à un chiffre et rarement à deux. Il y a quelques années encore, l'inflation était très élevée. Et le respect de tous ces paramètres macroéconomiques a permis à la RDC d'être éligible pour le plan de réduction de la dette étrangère appelé PPTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Cette année, à l'issue de la 6e revue économique, la RDC devrait voir sa dette réduite à plus ou moins 90%. Le respect de l'équilibre macroéconomique a aussi permis à la RDC de bénéficier du soutien de la communauté internationale dans son budget de 300 millions de dollars en 2001, 600 millions en 2002, 1 milliard 2 millions de dollars en 2003. Le budget de la RDC est passé cette année à plus ou moins 2 milliards de dollars. Mais le problème reste que toutes les performances du gouvernement ne sont pas encore ressenties au niveau de l'assiette des Congolais. Les fonctionnaires de l'État, les militaires, les enseignants, les magistrats ne sont toujours pas bien payés. La corruption et la mauvaise gouvernance gangrène le pays. La communauté internationale a même proposé son implication de la gestion des finances publiques pour arrêter cette hémorragie.
Voilà, c'est là encore un point d'explication sur l'aspect économique et social de Joseph Kabila. Commençons une fois de plus par Don Pierrot Toukani. Je rappelle, vous êtes journaliste indépendant et vous intervenez depuis Matadi au Bas-Congo. Qu'est-ce que vous dites de Joseph Kabila pour ce qu'il a fait de l'économie nationale ?
Comme on le disait tout à l'heure, quand nous avons fait l'aspect politique, Joseph Kabila est très différent de Joseph Le Père. Parce que une des premières décisions sur le plan économique qui a été prise, au niveau de la Banque centrale, c'est de laisser flotter le franc congolais. Alors que Le Père avait maintenu la fixation et tout ça, alors qu'il n'y avait pas la réalité entre ce qui s'est passé sur le marché et ce que le gouvernement voulait imposer aux gens. Ça, c'est une des grandes choses qui ont fait que, sur le plan économique, que nous ayons pu garder le franc assez fort. On peut tout dire, il y a eu de dérapage, mais en tout cas, le franc a essayé de garder son cap. Et aussi, vous vous rappelez qu'il y avait dans les temps le problème de carburant. Toujours pour ce problème-là, de fixer un franc congolais flottant, donc le franc congolais qui répond aux réalités du pays. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est d'avoir aussi osé faire certaines réformes. Vous savez, les réformes ont toujours eu difficile à passer dans ce pays, et dans tous les pays du monde d'ailleurs. Il a créé le COPIREP, qui est le comité de pilotage de réforme de société d'État, et tout le monde est d'accord de reconnaître que toutes les sociétés d'État sont en faillite. Donc il faut carrément revoir un peu la formule, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner le moyen au pays. Nous l'avons dit tout à l'heure dans le condensé de notre confrère, le budget de l'État. Aujourd'hui, le Congo n'aligne à peine que des milliards. Donc, j'ai suivi un jour sur une radio périphérique que aux États-Unis, rien que le budget de la défense nationale frôle le 242 milliards, alors que nous, pour un grand pays potentiellement riche, nous venons à peine d'atteindre 2 milliards comme budget. C'est ce qui fait que le gouvernement a difficile de bien payer le magistrat, de bien payer les enseignants, parce que, au fait, les gens croient qu'on est riche. Mais cette richesse n'est que potentielle jusque-là.
Oui, mais on sait, vous venez de reconnaître qu'il y a un effort avec la communauté internationale qui a permis d'abord un taux de croissance, qui a permis la maîtrise de taux d'inflation, mais le concret ne se traduit pas dans la vie des Congolais. Est-ce que les Congolais pour autant sont payés? Est-ce que les Congolais pour autant mangent bien? Est-ce que, en fait, en réalité, l'économie réalisée n'est pas détournée au profit des individus? C'est ça aujourd'hui, c'est qu'il faut parler aussi.
Il y a aussi le problème de bonne gouvernance, ça nous devons reconnaître. Et je disais que toutes les sociétés d'État sont en faillite, ça je l'ai bien souligné. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple ce que réalise l'OFIDA qui est parmi le grand pourvoyeur de recettes pour notre budget, l'OFIDA a essayé de doubler ses recettes. Donc, ça dépend des individus qui peuvent gérer. Comment se fait-il actuellement l'actuel comité de gestion de l'OFIDA fait plus que l'ancien comité de gestion de l'OFIDA? La bonne gouvernance est parmi ceux qui ruinent et qui a toujours ruiné ce pays. Les gens ont toujours eu tendance à confondre l'argent de l'État avec les faux argent. Donc il faudrait que des réformes se fassent le plus profondément possible pour permettre au peuple congolais de ressentir que réellement le pays est en train de remonter un peu. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Donc vous allez dire aux enseignants que le pays marche, je vous dirai que jamais. Je gagne à peine quelques, je ne sais pas, 20 dollars ou 30 dollars. Et ce serait la même chose pour le militaire. Et pour... Et il faudrait arriver à ce que le Congolais comprenne que le budget de l'État, c'est une affaire de tous. Donc, une fois de plus, nous devons contribuer aussi. Quelle est la contribution du Congolais au fait dans le budget de l'État? Combien de gens paient l'impôt? Combien de gens paient les taxes? Nous avons toute tendance à frauder, que ce soit la douane, que ce soit dans tous les taxes que nous voulons payer. Ça, c'est de un. Et de deux, la bonne gouvernance. Il faudrait aussi que...
Dandiro, oui. mais s'il faut rester concret, parler de l'action de Joseph Kabila, qu'est-ce que lui, il a fait concrètement pour mobiliser les recettes nationales, pour augmenter le budget, la contribution, pour augmenter le budget national en fonds propres, parce que pour la plupart, c'est... C'est la communauté internationale qui donne.
Je parle des problèmes de gouvernance. Je voulais en venir parce que, au fait, dans le temps, ça c'est le Kabila qui a commencé, mais lui a produit avec cette action. Vous savez que dans le temps, au niveau des régimes financiers, l'argent s'est versé au guichet. Donc, le receveur pouvait en faire de cet argent ce qu'il voulait. Mais depuis un certain temps, on a demandé à ce que l'argent du trésor public soit versé directement à la banque. Donc quand vous allez payer à l'OFIDA, à la DGI ou à la DGRAT, vous payez directement à la banque pour que cet argent soit disponibilisé au trésor public et que seul le ministre de Finances peut actionner le compte de l'État. Bien sûr, les structures de notre pays ne peuvent répondre à une chose, c'est que nous sommes descendus tellement trop bas que pour remonter, il nous faut vraiment du temps et de la bonne volonté. Le pays a été pillé sur tout point de vue qu'aujourd'hui, vous savez, dans le temps, la GKPIN donnait beaucoup d'argent au pays et on oubliait même qu'il y avait des régimes financiers pour compléter les recettes de l'État et on ne comptait que sur cela. Aujourd'hui, Kabila fils a pris un pays catastrophé, il faut le dire, un pays qui a été ruiné, qui a été pillé à tout temps. Donc il faudrait vraiment du temps pour qu'on puisse sortir les effets bénéfiques pour notre économie.
On va revenir à vous tout à l'heure, Don Piero Tukani. On retrouve maintenant Ben Clet Kakonde.
Sur le plan économique, je crois que c'est lui qui peut mieux apprécier l'action du président Kabila en tant que chef de l'État. C'est bien le Congolais. Et ce Congolais, ce n'est pas uniquement celui qui est dans les institutions. Je reviens toujours à cet aspect des choses. Il faut demander aujourd'hui, poser cette question à un enseignant. Il faut poser cette question à un fonctionnaire, à un militaire, à un policier. Il faut poser cette question aux chefs coutumiers qui sont dans les villages. Poser cette question aux parents d'élèves qui sont rançonnés par les directeurs d'école. Et je crois que la réponse est unique. C'est que rien n'a été fait sur le plan économique. Donc c'est un bilan hautement négatif. Mais si la même question vous la posez, aux spécialistes, aux gouverneurs de la banque, aux ministres du budget, aux ministres des finances et à tous les autres conseillers, ils vous parleront des taux de croissance en ceci, en cela. Mais ça, à quoi ça sert? À quoi ça sert pour un père de famille de faire des fiestes au centre-ville et de laisser traîner les enfants, la femme à la maison affamée? C'est ça notre problème aujourd'hui.
Vous reconnaissez aussi que c'est au fait la base de la relance économique. La base d'abord que de reprendre la coopération structurelle. On a entendu avec notre collègue Claude Kanzar en 2001, en avril, on met pratiquement la coopération structurelle avec les institutions financières a été renouée. En plus, on a commencé des programmes et des programmes qui, au terme, va amener à la réduction de la dette. C'est considérable, il faut mettre ça à l'actif.
Oui, mais il faut voir que les programmes ont été initiés depuis 2001, selon ce que vous dites. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2006. On devait atteindre le point d'achèvement pour accéder aux facilités des pays pauvres très endettés depuis l'année dernière. Mais à cause des dérapages des institutions et des chefs des institutions, la Banque mondiale et le Fonds monétaire nous ont sanctionnés. C'est pour ça que nous sommes encore en train de courir. Est-ce qu'on atteindra ce point cette année? Ce n'est pas si sûr. Donc, la presse nationale a toujours dénoncé les dérapages monétaires, les dérapages qu'on ne peut pas accepter. Et nous avons toujours, nous, la presse, mis sur la place publique les pressions et même les réprimandes de la communauté internationale sur nos dirigeants chaque fois qu'ils étaient tentés ou qu'ils étaient déjà en plein dans les dérapages. Donc, je crois que sur ce point, on peut dire que le programme a été commencé, mais il a commencé pour quelle finalité? Si c'est pour les discours, tant mieux. Mais le peuple a besoin de vivre, de voir, de constater par ses yeux. et par la main, touchée, palpable, mais non pas le discours.
Dialogue entre Congolais reçoit dans ses tribunes de presse Benkiet Kakonde, journaliste pour Au Potentiel, un journal de Kinshasa, et Don Piero Toukani, journaliste indépendant qui intervient depuis Matadi. Nous devrons avoir dans ce studio Claude Kamangamoutonde qui jusque-là n'est pas encore avec nous et nous espérons qu'il nous rejoindra tout au long de cette émission. Deuxième sujet dans cette tribune de presse, attaque lundi dernier de casques bleus guatémaltèques dans le parc de Garamba dans la province orientale. Jusqu'à 8 casques bleus sont morts, 5 blessés. Les casques bleus de la MONUC étaient en patrouille dans cette zone où l'on signale la présence de LRA, les rebelles ougandais. Revenons sur cette journée avec notre confrère Donald Madimba sur place à Bunia.
Selon le communiqué de la MONUC, l'unité guatémaltèque qui conduisait la mission de reconnaissance dans le secteur de la Garamba avait à 6h heure locale établi le contact avec des éléments armés. Un échange de tirs de 4 heures s'en était suivi, appelant ainsi l'intervention hélicoptère armée de la MONUC. C'est alors que ces dégâts sont arrivés. Des casques bleus du contingent népalais ont été acheminés par voie aérienne sur le lieu de l'accrochage afin de boucler la zone et de procéder à un ratissage du terrain. Pour le moment, nous savons également que aussi bien le corps des casques bleus morts que les blessés de ce matin sont arrivés à Bunia. Et déjà aussi, le directeur de la MONUC Bunia fait savoir que cette situation ne va ni décourager ni intimider la mission de l'ONU en RDC. Depuis Bunia, Donald Madimba, Radio Okapi.
Voilà, c'était le point de situation fait par Donald Madimba qui se trouve à Bunia. Donald qui revenait sur l'attaque de casque bleu dans le parc Garamba. Commençons par vous, Benkiet Kakonde. Les casques bleus sont tués une fois de plus. Oui, c'est trop.
C'est trop. C'est trop parce que ces jeunes gens n'ont pas quitté leur pays pour venir se faire tuer chez nous, au Congo.
Et c'est la porte pratique, c'est la porte de la RDC, premier pays où il y a eu beaucoup des casques bleus qui sont morts, plus que la Somalie.
Mais il y en aura encore d'autres. Il y en aura encore d'autres tant que la communauté internationale, représentée dans ce cas précis par le SIAD et la MONUC ici sur place, y compris les FARDC qui sont juste en formation, tant que tant que ces trois ensembles ne pourront pas se décider une fois de s'engager pour mettre hors d'état de nuire le dernier groupe rebelle qui existe encore sur le sol congolais dans l'Est, notamment les rebelles rwandais, notamment les rebelles ougandais, y compris aussi les Congolais qui font la dissidence tout le temps pour insécuriser le processus. Donc tant que les trois, le SIAT, la MONUC, les forces armées congolaises, tant que ces trois-là ne se mettront jamais ensemble, ne se décideront pas pour aller à l'attaque contre tous ces envahisseurs et tous ces assaillants, je crois qu'il y aura encore, on va encore dénombrer de nouveaux cas de mort dans les rangs de la MONUC.
On a parlé de la situation sécuritaire dans le bilan de l'actuel président Joseph Kabila. On a dit que le président de la RDC a le mandat nécessaire d'attaquer les rebelles qui sont là. C'était d'ailleurs le contrat signé avec l'Ouganda dans l'accord de Luanda, etc. Mais la MONUC, la communauté internationale, n'a de mandat que d'accompagner le gouvernement congolais. Mais on sait qu'au niveau du gouvernement congolais, il y a encore des problèmes d'organisation de l'armée et des problèmes d'intégration. Est-ce que faudrait-il attendre la FRDC améliorer son armée ou il faudrait maintenant que la communauté internationale puisse changer de mandat et commencer des offensives
On a senti la première fois quand les jeunes gens de la MONUC ont trouvé la mort du côté de Bunia, on a senti une réaction rapide et musclée de la MONUC sous justement les instructions, sur instruction de la communauté internationale. Et nous avions salué ces représailles contre les derniers carrés de bandits de Ituri. Je pense et je suis convaincu que si aujourd'hui la MONUC peut réagir de la même manière, parce que ce sont ses propres éléments qui sont en train de partir, si elle peut réagir de la même manière comme elle a fait la première fois, je crois qu'elle aiderait énormément. On n'a pas à attendre que l'armée congolaise soit constituée. Ça mettra beaucoup de temps parce que le problème de l'armée congolaise, je crois que nous en parlerons un peu quand nous reviendrons dans la situation au Nord Kivu, mais ça viendra. Mais pour le moment, il faut faire la guerre avec.
Don Piero Toukani, que pensez-vous justement de la mort de 8 casques bleus tombés cette semaine, lundi, au parc Garamba, les 8 qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà tombés en RDC et qui portent la RDC, premier pays où il y a eu beaucoup de casques bleus tués, plus que la Somalie.
Je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de mon confrère, parce qu'en fait, trop c'est trop. Et si la communauté internationale ne s'engageait pas sérieusement, nous l'avons dit, nous avons reconnu que notre armée se forme encore, se restitue encore. Or, il faut faire le plus pressé maintenant pour faire sortir du pays toutes ces forces négatives, comme on le dit. Nous n'avons pas pour le moment, nos forces armées n'ont pas encore cette force de frappe qu'il faut pour opposer, en tout cas, une farouche opposition à ces gens-là. Donc il faudrait que ceux qui sont venus nous aider pour nous assister puissent maintenant s'engager à nos côtés pour bouger ces gens dehors. Parce que autrement, on va encore compter d'autres morts du côté des Moniques, d'autant plus qu'ils sont encore avec nous ici dans le pays. Donc il faudrait vraiment que la communauté internationale, le CIAT, comme venait de le reconnaître mon confrère de potentiel, puisse s'allier avec les AVC pour mener une action déterminante et bouter toutes les forces étrangères de notre société internationale.
Voilà, on va retrouver maintenant Claude Kamangamoutonde. Je vous le disais que Claude Kamangamoutonde était l'un des journalistes qui devrait analyser avec nous les différents points d'actualité qu'on a retenus pour cette semaine. Claude, on en est maintenant au deuxième point de notre discussion, c'est l'attaque sur les casques bleus guatémaltèques dans le parc de Garamba dans la province orientale. Comment avez-vous analysé cette actualité la semaine dernière?
Ben Kate, quand il faisait remarquer qu'il y a nécessité de mettre toutes les bouchées doubles pour trouver une solution sécuritaire à la partie est du Congo, il y a encore quelques jours, le Conseil de sécurité insistait sur la tenue des élections dans les deux mois qui viennent. Donc, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, les gens vont se mettre à se préparer au sujet des présidentielles et même des législatives, d'où l'on commencera. Et par rapport à la question du Congo, qui, tel qu'on le dit, ça présente un défi tout aussi bien sur le plan de la sécurité que sur le plan de la logistique à mettre sur pied. C'est aujourd'hui, avec ce qui arrive au casque bleu dans la partie est du Congo, ça reprend tous ces problèmes de sécurité et de besoins en hommes et en matériel, pour sécuriser et aider à mener donc à bon port tout ce qui a été déjà fait jusque-là en République démocratique du Congo depuis que les Nations Unies sont impliquées dans le processus de paix ici. C'est déjà une première approche qu'on prend, parce que ce qui s'est passé dans cette partie de la RDC, c'est ce qui peut également se passer dans la partie extrême orientale, dans l'Ituri, c'est ce qui peut arriver dans le Nord Kivu comme dans le Katanga. Et comme le faisaient déjà remarquer certains confrères dans la presse que nous avons lue ce matin, il peut y avoir des risques de voir des populations de la partie est du Congo où la CI s'est déployée, où la CI est en train de s'organiser, de connaître quelques inquiétudes quant à leur participation aux élections qui sont prévues dans les jours qui viennent.
Troisième sujet dans cette tribune de presse, combat dans le territoire de Rutshuru entre les troupes FARDC et les militaires insurgés réfractaires au processus d'intégration. Cette semaine, les localités qui étaient tombées sous contrôle de ces insurgés sont reprises par la FARDC, appuyées par la MONUC. Que peut-on savoir de ces attaques? Je vous propose cet entretien entre Babel Pongo, notre consoeur ici à Kinshasa, et Gisèle Cage, qui a fait le déplacement de Rutshuru.
Gisèle Cage, bonjour. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Rutshuru?
Tout a commencé, Babel, le samedi 7 janvier, lorsque le convoi du colonel Kasikila de la 5e brigade intégrée a été attaqué par des hommes armés. Ce dernier a directement pointé du doigt des éléments du bataillon du major Eshima, basé à une trentaine de kilomètres de Goma. Le colonel Kasikila a, par la même occasion, suspendu sa participation aux réunions des commandements de Goma. La même semaine, certaines sources au niveau de Rutshuru signalaient déjà la présence dans ces territoires des militaires de la 83e brigade de Kichanga et ceux de l'ex-12e brigade de Rutshuru qui avaient refusé le brassage au mois de septembre 2005. Le mercredi de la semaine écoulée, les positions de la 5e brigade intégrée ont été attaquées à Ruyoni, vers Bounagana, donc c'est à 60 km au nord-est de Goma, par des éléments armés identifiés par la 8e région militaire d'être de la 83e brigade mêlée à ceux de l'ex-12e brigade. La situation donc a dégénéré plutôt au cours de la même semaine. Plusieurs localités du territoire de Rutshuru ont subi des attaques de ces insurgés, notamment les localités de Tongo, Djomba, Kiwanja et les chefs-lieux du territoire de Rutshuru, ainsi qu'à Ruindi, à 150 km au nord de Goma.
Voilà, c'était là l'entretien avec Gisèle Cage. Retrouvons maintenant le colonel Kasikila, le colonel qui a dirigé la brigade intégrée, 5e brigade intégrée, qui avait combattu contre les militaires insurgés et qui finalement avait cédé le terrain, la localité de Rutshuru.
Oui, les miliciens qui ont attaqué la 5e brigade intégrée à Rutshuru, il y a le 71e bataillon de la mer rwandaise qui est commandé par le major Wilson, il y a la 83e brigade de l'ex-RCD, un bataillon de la 86e brigade de l'ex-RCD, la milice qui est camouflée dans le territoire de Rutshuru du gouverneur du province du Nord Kivu Serufuri, un bataillon de l'unité défense, et les éléments de Laurent Kunda qui est commandé par un major Ambassa.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que vous avez abandonné votre position sans avoir affronté les insurgés?
En tout cas, ce qu'on dit, c'est du mensonge. On a fait 3 jours dans la ville de Bunagana, vers Unyonyi, où il y avait l'infiltration des Rwandais. On a combattu même à Rubare, on a combattu même à Rutshuru, mais moi j'ai fait une stratégie. J'ai parti à Kanyabonga sur ordre du commandant de l'intérieur militaire par coup de téléphone.
Les témoignages des gens de Rutshuru disent que des insurgés sont venus et il n'y avait plus personne. Comment vous pouvez expliquer?
Non, vous savez que les éléments de l'ex-PRCD sont les éléments du CRDC administrativement, mais politiquement, ce sont les éléments de l'insurgé Laurent Kunda. C'est bien connu officiellement même à Rutshuru. Vous voulez en appeler la population innocente. Vous direz la réalité qui s'est passée sur terrain. Il y a la 83e brigade qui est commandée par un major Fossé. Il y a la 81e brigade qui est commandée par le lieutenant-colonel Smith. Il y a 4 bataillons qui est commandés par major Makenga, major Kabundi, major Baudouin et major Elimou. C'est très clair. C'est la complicité des autorités compétentes de la 8e des autorités compétentes du province du Nord.
Pourquoi est-ce que c'est votre brigade qu'on a visée?
J'ai été visé parce que j'ai exécuté les missions qu'on m'avait données. Protéger la population et leurs biens, tracer les intérêts à moi, désarmer toutes les armes qu'on avait distribuées à l'époque du RCD, traquer la milice du commandant Jackson, le 110 Maïmaï. Encore le deuxième problème, c'était le problème des fosses communes.
Voilà, c'était là le colonel Kasikila qui est à la tête de la 5e brigade intégrée qui combattait contre les militaires insurgés aux alentours du territoire de Rutshuru. Il a été interrogé par notre consoeur Thérèse Bassoubi. Commençons cette dernière partie par vous, Claude Kamangamutonde. Comment on peut expliquer justement cette crise, ces affrontements au Nord Kivu entre les militaires d'une même région militaire, bien que les autres soient insurgés?
Voilà, je voudrais d'abord m'excuser et faire remarquer que là, je vous ai pris au vol, mais dans l'une des parties de ce programme, il était prévu que vous parliez du bilan.
Mais effectivement, là, on a déjà dépassé. On va plus revenir sur ça, mais si vous mettez
On n'y revient pas, mais c'est pour faire remarquer que tout cela est à mettre dans le compte du bilan de ces 5 dernières années, de la manière dont on a géré la période avant le dialogue intercongolais et après le dialogue intercongolais. Parce que dans l'une des recommandations du dialogue intercongolais, il était prévu le brassage des différentes forces militaires, la formation d'une armée unique. Et voilà qu'aujourd'hui, à quelques mois de la tenue des élections, on se rend compte que sur ce plan, le bilan n'est pas quand même flatteur. Dans la mesure où on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments militaires, qu'on dit banyamulenge, qu'on dit rwandophones, qui ne paraissent pas encore très à l'aise sous ce même commandement qui viendrait de Kinshasa.
Et donc pour vous, les affrontements, les derniers affrontements vers le Rutshuru, c'est le signe de l'échec de l'intégration, de brassage.
Bon, le signe de l'échec de l'intégration du brassage, je ne vais pas tout mettre en bloc de cette manière parce que il y a quand même un certain nombre d'efforts qui ont été menés, mais ceci fait remarquer que il y a un problème à régler et que ce problème est sérieux et ce problème, on n'y a pas trouvé de solution après toute cette première période de la transition. Et voilà que nous allons aller vers la fin de la transition et que le problème est encore pendant, il est réel, il est là. Est-ce que cela voudra dire que le gouvernement avoue maintenant son échec, il atteint son niveau d'incompétence quant au problème de la du brassage des différentes forces qui se sont affrontées pendant la guerre que le Congo a connue. Moi, je ne vais pas répondre de manière affirmative, mais les faits sont là. Ils démontrent qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, surtout que ce sont les mêmes noms qui y reviennent. On entend parler de Sérou Fouli, on entend parler de Kounda Batoré. On disait également ici qu'il y a eu une participation des forces rwandaises. Qu'est-ce qui a été fait derrière les papiers qui ont été signés en Afrique du Sud, qui dans tous les contacts qui se font avec les pays qu'on a eu à qualifier d'agresseurs à un moment à partir de la République démocratique du Congo. Donc il y a tous ces problèmes qui font dire qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge et qu'il faut y revoir à deux fois.
Benkhet Kakonde.
Ah ben, je crois qu'il y a deux constantes. C'est que le gouvernement de Kinshasa, le président et les vice-présidents, les ministres, le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, ne semble pas vraiment se préoccuper de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le Nord Kivu. Et pourtant, selon toutes les informations, les militaires qui font dissidence sont des militaires Banyamulenge, les anciens du RCD, qui, dès le début, n'étaient pas très chauds pour le brassage.
Oui, mais ils ne sont pas toujours des militaires Banyamulenge, ils sont des militaires, ils sont de différents groupes ethniques, mais qui ont refusé le brassage. Parce qu'on compte aussi beaucoup d'autres groupes ethniques à l'intérieur de ces bataillons qui se sont insurgés.
Ok, c'est une information. De deux, sur le terrain, on sent que le gouverneur du Nord Kivu, Sérou Fouli, il est toujours accusé d'entretenir une jeunesse, une milice. Mais on ne sent pas que Kinshasa est interpellé par toutes ces situations, qui sont tout à fait drôles, vraiment. C'est plutôt la presse internationale qui s'agite lorsqu'elle apprend qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. C'est nous, ici, la presse nationale, qui faisons écho. Mais les autorités elles-mêmes, qui ont en charge la défense, la politique, la sécurité et tout, mais dorment sur leurs deux oreilles. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que, généralement, nous disons qu'il y a complicité entre Kinshasa et tous ces mouvements qui se passent là. Et nous sommes aujourd'hui réconfortés dans notre position par ce que déclare généralement le ministre de la Coopération, Moussa Nyamwisi, que Kinshasa instrumentalise les gens de ce côté-là.
Retrouvons rapidement Don Piero Toukani pour clôturer cette émission. Don Piero, que dites-vous de derniers affrontements autour?
Moi, il y a une question qui me revient à l'esprit chaque fois que j'apprends une histoire à l'est du pays. Est-ce que tous les sénateurs de Stone City, je vois là les leaders, ceux qui ont dirigé la rébellion, est-ce qu'ils sont sincères avec nous autres? Et est-ce qu'ils sont sincères avec le Congo? Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque fois, on revient toujours là-dessus, il y a des problèmes au Nord Kivu, au Sud Kivu et tout ça. Et pourquoi seulement dans cette partie de la République? Pourquoi pas au Bakou? Pourquoi pas à Bakoudou? Pourquoi pas ailleurs? Donc il faudrait vraiment que c'est dans l'espace présidentiel. Quand c'est la République, j'ai eu le temps, je ne sais pas dans quel domaine, où on a parlé de l'agenda caché. Parce que comment à quelques mois des élections, ou alors que tout le monde est mobilisé pour ça, qu'on entend encore de bruit de guerre à gauche et à droite. Qu'on nous dise la vérité, qu'est-ce qui nous dirige la vérité? Est-ce qu'ils sont réellement pour l'unité du pays ou ils ont leur agenda caché?
Merci beaucoup, Don Piero Toukani, Don Piero Kitkout Toukani, Claude Kamanga et Bentlet Kakonde, tous ces journalistes qui sont revenus avec nous sur trois points d'actualité qui ont marqué cette semaine, le 5e anniversaire au pouvoir de Joseph Kabila, l'attaque lundi dernier de casques bleus guatémaltèques dans le parc Garamba et le combat dans le territoire de Rutshuru. Ce sont là les points des discussions de notre tribune de presse. Merci beaucoup à vous qui avez suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour un premier numéro de Dialogue entre Congolais de la semaine.
Oh, Cathy.